En stéréo ou en acoustique, au cinéma souvent, à l'opéra bien sûr, et dans nos transistors surtout, elle est celle qui donne le tempo, celle qui sonne toujours juste, celle sans qui la mélancolie serait moins mélodieuse, la joie moins communicative et l'effroi moins saisissant peut-être. Elle n'a de cesse de rehausser le clavier de nos émotions, de nous galvaniser, de nous envelopper. Et en ce 21 juin, il est de bon ton de la célébrer. La musique est à l'honneur dans ce nouveau numéro d'En Spectateur. On a tous en nous une petite sonate de Vinteuil, une mélodie entêtante, un riff adoré qui rythme la bande sonore de notre vie. En ce début d'été, la musique se met en mode estival avec un festival, les Pianissimes, à Saint-Germain au Mont-d'Or. La musique en transat, c'est à une expérience d'écoute inédite que nous convient 12 artistes, jeunes talents, qui forment la fine fleur du piano classique. Au 18 juin dernier, l'air suave du Val-de-Saône était empli de sonates, d'adagios et autres nocturnes. Dans un cadre idyllique, le Festival des Pianissimes célébrait sa 18e édition. Le chef d'orchestre de l'événement, Olivier Boulet, directeur artistique des Pianissimes, au micro d'En Spectateur.
Seulement, on voulait aider les jeunes talents du classique qu'on connaissait. Mais on voulait aussi renouveler le public du classique, hein, tant du point de vue sociologique que du point de vue de l'âge. C'est vrai que c'est une musique qui est souvent vue comme élitiste, hein, et l'âge moyen du public a tendance à vieillir. Et nous, on trouve que ce n'est pas une fatalité et c'est à nous en tant qu'organisateurs et aux artistes et à tous ceux qui aiment ce patrimoine, parce que ça fait partie du patrimoine de l'Europe, hein, cette musique. Bah, c'est à nous tous qui avons la chance, jeunes, d'avoir baigné là-dedans, bah, de le faire connaître aux autres et de prendre des initiatives pour cela. Tous les ans, j'assiste aux auditions finales du Conservatoire National de Paris, aussi bien en piano qu'en musique de chambre, et je prends des notes. Et puis, on m'envoie aussi pas mal de propositions ici maintenant. Et puis, on a tout un réseau de gens qui nous recommandent aussi des artistes. Moi, en tant que passionné, j'écoute pas seulement le premier prix reconnu par le jury, mais j'écoute absolument presque tous les candidats. Et quelquefois, je flash sur quelqu'un qui a pas de prix ou bien qui a un deuxième prix ou quoi. On est entouré de talents incroyables. On a la chance en France d'avoir la deuxième école de musique au monde avec le Conservatoire de Paris, hein, juste derrière la Royal Academy de Londres. Donc il faut en profiter, quoi. Il y a vraiment plein de gens passionnants à découvrir. La tête d'affiche de cette année, c'est Dana Ciocarli, qui est une pianiste d'origine roumaine extraordinaire, qui a fait une intégrale Schumann, très très belle, et puis qui entame maintenant une intégrale des concertos de Mozart. Et donc on l'a invitée à jouer un concerto de Mozart, justement en version de chambre, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un orchestre. Donc on a fait venir un quatuor lyonnais d'ailleurs, qui s'appelle le quatuor Vassili, pour jouer avec elle. Donc là, typiquement, c'est elle, elle a une carrière très reconnue. Quatre Vassili n'est pas encore très connu, mais est excellent. Il se trouve que voilà, ils fréquentent tous le Conservatoire national de Lyon, et on fait jouer voilà un quatuor de jeunes avec avec cette pianiste. Donc ça nous plaît beaucoup.
Après Dana Chokerly, c'est Hayek Lee, grand lauréat du concours Long Thibaud, de se produire sur la scène des pianissimes. Il succède au trio piano-violon-violoncelle Gaspard dans la nuit et au spectacle déjanté piano-claquette Rhythm and Fire. Pour l'heure, place à François Mosqueta, à qui revient de jouer les premières notes de cette 18e édition des Pianissimes. François Mosqueta, bonjour, bienvenue au micro de Transistor. À un peu plus d'une heure de votre concert au Festival des Pianissimes, François Mosqueta, vous êtes pianiste classique, formé tout d'abord à Toulouse, d'où vous êtes originaire, puis à Paris, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. Et ce soir, vous jouez au festival Pianissime, et non seulement vous jouez, mais vous ouvrez le festival. Alors, quel est votre état d'esprit avant le concert de ce soir ?
Eh bien, bonsoir, eh bien, ça va très bien, merci. Je vais bien, je suis en forme, il fait super beau, et mon état d'esprit, c'est l'été, c'est les glaçons qui teintent dans les verres, c'est faire de la belle musique et surtout que les gens se sentent détendus, relax, voilà. Donc en général, je présente les concerts, je présente les œuvres que je joue, je donne des anecdotes sur les compositeurs et ça participe à cette ambiance détendue.
Les Pianissimes, c'est un festival en plein air. Les spectateuristes s'installeront bientôt dans des transats pour vous écouter. Ici, on décloisonne la musique classique, ce qui rejoint d'ailleurs votre credo, rendre la musique classique plus accessible. Qu'est-ce que cela signifie de rendre la musique classique plus accessible ?
C'est une bonne question. En fait, moi, je pense que la musique classique dans sa forme traditionnelle, c'est-à-dire un récital, donc un pianiste habillé en noir qui joue, qui salue et qui s'en va, et ben ça c'est vrai que c'est des codes qui datent déjà du 19e. C'est Liszt qui avait instauré le récital, c'est-à-dire jouer la musique des autres et en faire un véritable show. Mais à cette époque, c'était un véritable show. Aujourd'hui, ça, je pense que c'est une forme qui est quand même plus austère, mais qui est à la fois propice à une écoute qui est très qualitative. Et donc je suis pas du tout pour la destruction du récital, au contraire, c'est super que ça existe. Mais je pense qu'on peut créer d'autres codes qui permettent à des gens qui ne se reconnaissent pas dans les codes habituels, les codes classiques, qui savent pas quand est-ce qu'il faut applaudir, de se sentir à l'aise. Et donc voilà, ça c'est un peu l'idée de rendre cette musique moins impressionnante, parce que finalement tout le monde écoute de la musique classique, que ce soit pour étudier, que ce soit voilà, écouter des morceaux très connus, des playlists YouTube, tout ça. Tout le monde écoute de la musique classique, et donc l'idée étant de créer un marchepied pour que les gens puissent rentrer dans ce langage, parce que c'est un véritable langage. Voilà.
Est-ce que cette volonté de rendre la musique classique plus accessible est née de la manière dont vous êtes venu à la musique, François Mosqueta ? Est-ce que vous êtes né, par exemple, dans un milieu de musiciens ?
Non, pas du tout. Je ne suis pas issu d'une famille de musiciens, mais ouais, je fonctionne, on va dire, au coup de cœur. Donc quand j'entends un truc qui me plaît, et ben, je l'écoute en boucle. Je ne suis pas du tout dans une démarche d'esthète. Qui va s'intéresser à écouter tous les enregistrements de telle pièce, de tout ça, mais je fonctionne vraiment au coup de cœur, et puis après, c'est ça qui me permet en fait de rentrer dans l'univers. Et je pense que le principe de la médiation et voilà, de rendre accessible cette musique, c'est non pas d'en faire quelque chose d'extrêmement sérieux, musicologique, mais au contraire de juste chercher à rendre, enfin à embarquer les gens dans l'univers du compositeur. Voilà.
Le piano, c'était une évidence ?
Non, non, c'est une erreur complète de l'histoire. Moi, j'avais un coup de cœur pour la trompette, mais il manquait les dents du devant. Donc on m'a dit, bon, en attendant que tes dents poussent, mets-toi au piano, c'est bon, ça développe l'oreille, tu apprendras le solfège, l'harmonie, tout ça. Et puis quand tu auras des dents, bah, tu te mettras à la trompette. Et puis quand j'ai eu des dents, on m'a proposé, mais je m'entendais super bien avec mon prof au conservatoire, Michel Dru, qui est vraiment une crème. Et donc, du coup, je voulais pas quitter Michel Dru, donc j'ai continué le piano. Et voilà.
Et ça a continué depuis.
Exactement, ça a continué depuis. Mais j'ai toujours le projet de m'acheter une trompette pour m'y mettre. Voilà.
François Mosqueta, vous cherchez à faire sortir la musique de sa tour d'ivoire par le biais de différents projets, notamment un pianiste qui parle, votre chaîne YouTube. Dans vos vidéos, vous dévoilez la vie secrète des compositeurs de musique classique. Y a-t-il un lien, selon vous, entre plaisir d'écoute et connaissance des partitions et de leurs compositeurs ?
Oui, oui, je trouve que c'est une bonne question, mais je crois, parce que finalement, il y a des choses, quand on les écoute une première fois, on ne saisit pas tout de suite la profondeur ou l'intérêt, et le fait de pouvoir les replacer dans un contexte, eh bien, ça permet de développer un imaginaire, de rentrer dans l'univers du compositeur, voilà, c'est comme, je dirais, c'est comme mettre un vin dans un bon verre, quoi. C'est-à-dire que bon, bah, si on vous sert ça dans un gobelet en plastique, oui, c'est peut-être du bon vin, mais vous n'aurez pas les conditions optimales pour le déguster. Et alors que si vous avez quelqu'un qui vous explique, un vigneron qui vous explique comment il l'a fait, quelle démarche, quel sol, quel climat, quelle variété, je ne sais quoi, il vous embarque dans une histoire, dans un univers, dans une démarche et dans une aventure humaine. Et ça permet d'apprécier et de... changer la qualité de l'écoute.
Voilà. Est-ce que vous introduisez cette note pédagogique dans vos concerts ?
Oui, oui, exactement. Ben, ça, c'est un truc que je faisais déjà avant YouTube, c'est-à-dire je présente les concerts parce que ben, je peux pas m'en empêcher. J'aime faire ça, j'aime donner des anecdotes, faire des blagues sur scène, c'est dans ma nature. Et ça crée une connivence aussi avec le public qui est hyper intéressante.
Vous brisez le mur, en fait, entre le public et vous ?
Exactement. Je pense qu'en fait, il y a deux options possibles. Soit on est dans une liturgie, c'est-à-dire un pianiste qui est un prêtre qui accomplit un rituel presque magique, c'est-à-dire de rentrer en communication avec des gens qui sont morts et qui ont écrit de la musique magnifique. Et donc les ouailles viennent écouter ça religieusement. Ça, c'est une option qui est tout à fait valable. Et encore une fois, je le dis, je suis complètement client de ce genre de truc. Ça, c'est une approche possible. Mais il y a aussi une autre, à mon avis, une autre manière de partager qui est de s'adresser aux gens d'une manière simple et de mettre le focus sur telle anecdote, tel contexte, de faire une blague et puis ça détend tout le monde et on passe un bon moment. Voilà.
Comment avez-vous choisi les partitions que vous interpréterez ce soir sur la scène des Pianissimes ?
Et ben, quand je construis un programme, en général, c'est soit comme un menu, c'est-à-dire les amuse-bouches, puis une entrée, puis un plat de résistance, et puis quelque chose de plus léger à la fin. Soit c'est un parcours, on va dire, plus une sorte de chemin psychologique. Voilà. Et là, en l'occurrence, on va commencer avec Bach. Et Bach, j'aime bien cette musique parce que ça permet de se nettoyer les oreilles de tout ce qu'on peut avoir, de coups de fil, de bruit urbain, de tout ça, et de se recentrer. Et ça nous prépare à vivre des moments incroyables. Donc ça, c'est une sorte de coupure entre le monde extérieur et le moment qu'on va vivre dans le concert. Et puis après, je présente deux facettes de Mozart. Un Mozart qui est profond, qui est presque spirituel, qui est en fait, je vais jouer un adagio, une pièce assez lente, dans une tonalité mineure, c'est-à-dire qu'une tonalité qui est plutôt sombre, qu'il utilise rarement. Et finalement, dans cette pièce qui a un petit côté tragique parfois, eh bien, à la fin, il y a une lumière incroyable. Voilà. C'est-à-dire que la joie et la puissance de vie de Mozart finit par l'emporter sur le tragique de la vie. Et puis la deuxième pièce de Mozart que je joue, c'est sa 11e sonate. Et le premier mouvement, c'est une improvisation de Mozart sur un thème. Et puis là, il imagine tout un tas de variations. Et ça, c'est... En fait, on va rentrer dans la tête de Mozart, dans sa créativité, dans son humour, dans ses facéties. Puis après, on a un deuxième mouvement, qui est un mouvement de danse. Et puis le troisième mouvement, tout le monde le connaît ou presque, c'est la marche turque. Voilà. Qui est aussi pleine d'humour. Donc ça fait deux Mozart différents.
Ajoutez à ce programme les arabesques de Debussy et le scherzo numéro 2 de Chopin, brillamment interprétés, et vous obtiendrez un public envoûté.
Moi, j'ai beaucoup aimé Debussy avec les arabesques. J'ai trouvé très beau et l'explication que l'artiste a pu en faire aussi très parlante et très touchante.
Oui, pareil, un petit coup de cœur pour Debussy. Oui, il a fait un petit parallèle avec Matisse que j'aime bien. Et du coup, j'ai apprécié aussi son discours plein d'humour et qui nous aide à nous plonger dans cet univers des grands compositeurs, mais avec une touche de modernité qui est intéressante.
Et puis donc, je trouve que les Pianissimes, enfin, c'est pas la première fois qu'on vient, on a la Chasselet. Avant, et c'est la première fois qu'on vient donc au Parc des Hautanes à Saint-Germain-Mont-d'Or. C'est bien organisé, il y a un public qui est très sympathique et puis ça fait découvrir un peu la musique classique. Hein, donc c'est très bon pour... moi, j'étais pas du tout spécialiste de ça et je commence à aimer ce type de musique, donc c'est parfait, c'est bien. Quoi. Puis en plus, ce musicien était quelqu'un de... très bien, enfin je veux dire dans ses interventions et puis virtuose quoi, donc c'est très plaisant à écouter quoi, voilà.
J'aime beaucoup la musique parce que ça me relaxe énormément, j'en ai besoin et je crois que j'ai apprécié d'autant plus que je suis incapable de pratiquer. Donc c'est certainement l'envie qui me passionne.
Le talent et la passion de François Moschetta seront à retrouver prochainement sur YouTube dans Piano Explo. Il nous ouvrira les coulisses des temples de la musique classique. Sur scène dès septembre avec le danseur Aurélien Lehmann au théâtre de Passy, ainsi que dans un seul en scène au studio Héberto, vous retrouverez ce pianiste qui parle avec générosité, avec cœur et avec panache. C'est absolument captivant.
Lorsque j'entends sous prélude de Bach par Glenn Gould ma raison s'envole vers le port du Havre et les baraques et les cargos lourds que l'on rafistole et les torchères, les grues matraque. Les citernes de gasoil. Et toi qui courais dans les flaques. Et moi et ma tête à claque. Moi qui te croyais ma chose, ma bestiole. Je n'étais qu'un bout de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole. Et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins lourds. Et toi, les pieds dans le flac. Et moi, et ma tête à claque. J'ai pris les remorqueurs pour des gondoles. Je traîne ma casserole.
Le prélude de Bach a accompagné le décrescendo du soleil couchant à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Point d'orgue de cette soirée, une rencontre entre artistes, spectatrices et bénévoles, essentielle à l'organisation du festival.
En dehors des grands événements, je fais plein de choses à côté. Je fais des affichages, je fais de la billetterie, la relation avec Florian Caroubi, je ne sais pas si vous connaissez, ou avec Olivier. On fait l'organisation. Voilà, je m'occupe beaucoup de l'organisation. Je n'étais pas musicienne, je n'avais même pas une éducation musicienne, classique en tout cas. Et dans la vie, les événements font qu'un jour, on a besoin d'écouter autre chose que ce qu'on écoute. Et je me suis passionnée pour la musique classique. Et un jour, je suis venue au festival en achetant un billet. Et ils ont demandé s'il y avait des bénévoles qui accepteraient. J'ai dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée, que je me suis passionnée. Et grâce aux bénévoles, j'ai beaucoup appris sur la musique classique.
La convivialité des pianissimes sera de retour à Paris à partir du mois de septembre pour une saison entre la Scala et l'auditorium du musée Guimet, mais aussi dans le Val-de-Saône pour une saison trimestrielle. Un grand merci à Olivier Boulet, à Florian Caroubi et à l'ensemble des organisateurs des pianissimes pour leur bel accueil. Merci à Sylvie pour son aide précieuse. Vive les pianissimes, vive la musique!
China Kappa jumps to 2 feet creep of the road. Two photo to record me lumps in war. Their ancestors his tongue so. Rattle as chose.
all dollars and cares glazed to grey, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp what the body grasp not. Oh, the photographic.
Retour sur la presqu'île à présent, à l'ENS de Lyon, où il ne reste plus qu'une petite dizaine de jours pour découvrir Réagir, une exposition montée dans le cadre de l'UE Pratique Curatoriale, organisée à l'ENS de Lyon.
Et donc c'est l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne qui a un partenariat avec l'ENS tous les ans et qui, en gros, nous offre la possibilité de travailler avec son équipe, le plus important étant la régie au moment du montage de l'exposition. Et donc, c'est ça, à partir d'un propos, il a fallu faire des sélections des œuvres. Ça a énormément bougé. On était peut-être à notre cinquième sélection. Certaines œuvres n'ont pas été prises parce qu'elles ne passaient pas par la porte, parce que les devis d'assurance étaient trop élevés, parce qu'elles étaient déjà en dépôt ou en prêt dans d'autres musées. Et donc voilà, ça aboutit aux cinq œuvres qu'on a dans l'exposition aujourd'hui.
Réagir est une exposition qui incite ses visiteurs et ses visiteuses à un questionnement sur le thème de la violence, sur ses représentations et sur les réactions qu'elle suscite. Tantôt explicite, tantôt sollicitant l'imagination des visiteurs, les cinq œuvres de l'exposition travaillent les questions du corps, de la présence et du positionnement face à la violence, qu'elle soit perpétrée ou subie.
On montre plutôt... On voulait plutôt prendre des œuvres qui nous interrogeaient sur notre rapport à la violence, le fait que nous aussi on peut être violent, le fait que tout est ambigu. Enfin, par exemple, l'œuvre de Sylvia Bossu, c'est justement les vitrines.
C'est In the Middle of Nowhere. Et en fait, cette œuvre, elle est sonore et elle se constitue par deux vitres avec des enceintes au centre, donc le son se réfléchit entre les parois. Et donc Au milieu de nulle part, qui est le titre de l'œuvre, fait un lien avec ce que dit Lucie, dans le sens où on a l'impression que ce sont des bruits de bombardement, des sifflements, etc. Et en fait, ce sont des enregistrements des feux d'artifice du Nouvel An berlinois. Et donc le message est brouillé, et volontairement, puisque Sylvia Bossu a beaucoup créé d'œuvres qui jouent, qui sont avec le spectateur.
Une des œuvres nous interpelle tout particulièrement. Dans I, You, Us, l'artiste Adrian Piper nous apostrophe tout au long d'une série de 6 photographies emplies de bulles de bandes dessinées. Prêtez sans faillir une attention très scrupuleuse à ce que j'ai à vous dire, car si vous ne le faisiez pas, je m'efforcerai très sincèrement de vous tuer. Peut-on lire?
En fait, on l'écoute pendant les 6 photos, justement, et en fait, à la fin, elle ne nous dit pas grand-chose à part de l'écouter. Ce qui fait que, on se dit, c'est étrange. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas saisi qu'elle pouvait aussi s'adresser aux visiteurs et qu'il y avait cette espèce de mise en abîme, du visiteur ou de la visiteuse. Alors qu'en fait, du coup, c'est à plein de niveaux, parce qu'en fait, elle parle ce moment de la guerre du Vietnam, donc... Elle part aussi de notre rapport à l'autre, du fait d'arrêter les relations de conflit et d'écouter l'autre, de ce qu'il a à nous dire, etc. Peut-être qu'en tant que femme racisée, on peut aussi se dire qu'il y a beaucoup de choses sur le fait de l'écouter, elle. Et en plus, du coup, il y a cette dimension entre l'artiste et le visiteur, la visiteuse, puisque l'artiste, elle se représente elle-même. Donc je sais que ça avait un peu surpris au début.
Un peu le seul moment dans l'exposition où on a le langage qui est investi d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire par des mots. Et donc c'est aussi ça qui fait la singularité de l'œuvre, et c'est comme si le visiteur, la visiteuse était habitué à finalement avoir un discours très flou, mais pas de mots posés sur la violence, et qu'ici, par rapport aux 5 heures, c'est le seul moment où ça se déploie.
Le son, la parole et le cri sont-ils le fil conducteur de cette exposition?
Oui, complètement. La première œuvre dans le parcours, c'est Journiac. Et là, lui, il a la bouche ouverte dans un espèce de cri inarticulé, inaudible. Alors que juste après, comme l'a dit Louise, on passe à Adrian Piper, où là, il y a des mots, mais c'est pas audible. Ensuite, on passe à Sylvia Bossu, où là, par contre, c'est des sons de bombardement ou feu d'artifice, on sait pas. Mais il n'y a plus de paroles, et après il y a Tarek Lakrissi, là c'est une lame, donc en fait il n'y a vraiment pas de parole. Et enfin, on termine avec Lola Gonzalez, où là, bah, c'est hyper étrange. C'est une vidéo de 15 minutes où, en fait, on a un collectif qui ne parle jamais. Et on a un espèce de bruit blanc, un peu d'arbres, etc., de vent, où bah, la parole, elle s'est un peu éteinte par rapport à ce qu'Adrienne Piper avait fait émerger. Et donc, ouais, le rapport à la parole et au langage, c'était quelque chose d'important pour nous.
Et ça s'articulait aussi avec une réflexion sur le corps qui traverse les œuvres. Parce que même si on prend donc une œuvre plus difficile, qui est donc La Lame ondulée de Tarek Lakrissi, qui est issue d'une série qui s'appelle Le Parfum des Traîtres, elle est normalement en dialogue avec deux autres sculptures qui sont Trahir la famille, Trahir la lune, et trahir les normes. Donc c'est trahir les normes qu'on a insérées dans l'exposition. Et en fait, lorsqu'on s'intéresse aux propos de l'artiste, on se rend compte qu'il s'est beaucoup appuyé sur Jean Genet, qu'il s'est appuyé aussi sur les textes d'Elsa Dorland et beaucoup de textes militants. Et donc en fait, en ayant aussi une formation littéraire, on se rend compte qu'à travers cette sculpture, qu'il y a un dialogue avec l'écrit, le corps, comment justement par cette forme ondulée on peut se confronter aux normes qui sont une certaine violence, et peut-être en fait la seule manière de s'y confronter, c'est de les appréhender d'une manière oblique, avec une violence qui est questionnée, parce que ça reste une lame tranchante même si elle ne fait pas figure d'arme, parce qu'elle elle a une posture très ondulée et via l'ombre portée.
Sylvia Bossu, Lola Gonzalez, Michel Journiac, Tarek Lakrissi et Adrienne Piper, les œuvres de ces artistes vous sont présentées dans l'exposition Réagir à la Galerie Artemisia de l'ENS de Lyon jusqu'au 30 juin. Et c'est la fin de cet épisode d'En Spectateur. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve en septembre autour de nouvelles créations. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre au théâtre, au cinéma ou à l'opéra. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.